un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est une histoire qui fait partie de notre série intitulée « D'autres mères que la mienne », inaugurée par Élise Andrieux avec les récits de 6 personnes qui racontent la façon dont les liens du sang ne sont pas toujours les plus beaux, les plus généreux et les plus enveloppants de tendresse parentale. Ils et elles ont eu une mère, mais aussi ont reçu la marque d'un amour maternel, si un tel sentiment existe, en tout cas dans le genre inconditionnel de la part d'autres femmes. Cathy, Mathilde, Bernard, Miaëlla, enfant ou mère, Babette, Marie-Thérèse, que vous pouvez écouter ou réécouter sur notre site ou l'appli Radio France. Aujourd'hui, l'autre mère se prénomme Florie et vit désormais avec ses 5 enfants de cœur près de Nîmes. Milena et Luca sont les plus âgés et c'est aussi leur histoire que nous racontons. Il y est question d'un féminicide qui a eu lieu en 2018 du côté d'Alès et de la façon dont l'ont vécu les orphelins de ce couple décimé par la violence conjugale. D'une étrange forme de déni dans la façon dont Milena a réagi et de distance dans la manière dont elle le raconte. Une histoire d'adoption, de protection, de retrouvailles et de séparation qui finit bien, enfin si on veut. D'autres mères que la mienne par Judith Chétrit avec Milena et Florie.
Je m'appelle Milena, j'ai 19 ans. J'habite à près de Nîmes, à Pouls. Et je passe en terminale l'année prochaine. J'ai grandi dans une famille très traditionnelle. On est arménien, donc on était beaucoup dans notre culture. À la maison, on ne pouvait pas parler français, on parlait arménien. Ça tenait à cœur à mon père qu'on ne perde pas notre langue natale. Mais le climat n'était pas très très traditionnel. C'est-à-dire qu'on a grandi dans des violences constantes. Depuis que je m'en souviens, ça a été la violence. Violence constante vis-à-vis de ma mère, puis après vers la fin de la vie de mon père, contre moi aussi. Entre 11 et 12 ans, j'ai commencé à réagir aux violences. Je m'interposais, j'essayais de calmer le jeu. Je me suis même pris des coups en essayant de protéger ma mère. Et il me semble que ma mère avait posé une main courante ou porté plainte, je ne sais plus, mais elle s'était rétractée. Parce qu'elle a eu peur qu'il aille en prison et qu'on puisse pas avoir notre père et nanani et nanana. Je sais qu'elle a écrit une lettre au procureur pour demander une injonction d'éloignement, il me semble que ça s'appelle. Et on n'a jamais eu de réponse. Il y a eu plusieurs moments dans ma vie, depuis petite, où j'ai vu ma mère faire ses affaires pour partir. Mais à chaque fois, mon père disait, tu pars, mais sans les enfants, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, ma mère n'allait pas faire ça, parce qu'elle voulait pas nous laisser... Donc forcément, elle pouvait jamais vraiment partir. J'ai un petit frère qui a maintenant 17 ans. Ce qui a changé un peu le cours de notre vie, c'est que mon petit frère, quand il avait 10 ans, du coup, a parlé à ses professeurs en CM2. Il a dit que ça allait pas à la maison, tout ça. Les professeurs ont signalé ça à l'aide sociale à l'enfance, ce qui a fait que ma mère a eu plusieurs rendez-vous qu'on a dû cacher de mon père. Et puis au dernier rendez-vous, on a été convoqués à 3, donc mon frère, ma mère et moi. J'avais 13 ans, Lucas avait 11 ans, je pense. Et quand on est parti de chez nous pour ce rendez-vous, j'ai dû mentir à mon père puisqu'il a vu la lettre de la convocation. J'ai dû dire à mon père droit dans les yeux, alors que je savais que s'il apprenait la vérité, j'allais me faire tuer, que Lucas avait besoin d'aide psychologique parce qu'il passait au collège et que c'était compliqué pour lui, voilà. Donc on est sorti de chez nous en disant « bon, on va là-bas à mon père, puis on ira faire les courses pour la rentrée ». À ce moment-là, ils ont dit « soit vous restez avec vos enfants à ma mère et on vous protège tous les trois, soit vous partez sans vos enfants, mais c'est hors de question que vos enfants grandissent dans ce climat-là ». Et c'est là que j'ai vu ma mère en pleurs. Je voyais qu'elle savait pas quoi faire et c'est moi qui ai dû prendre la parole pour donner des directives. Et c'était très compliqué parce que ma mère, elle se sentait coupable parce que à ce moment-là, ça allait avec mon père. Parce que c'était bien sûr par petite période où ça allait pas. C'était pas tout le temps de la violence non plus. Et du coup, ma mère est restée bien évidemment avec nous. On a été placés dans un foyer de protection pour femmes et enfants victimes de violences. Et puis ça a duré 8 mois, ça. On n'avait absolument aucune affaire, le foyer nous a fourni en tout, en habits, en nourriture, enfin tout ce qui est possible, imaginable. On on s'est entendu avec tout le monde parce qu'on vivait un peu tous la même situation. Et puis il y avait une cuisine commune en bas où on se faisait des repas très souvent. C'était une sororité un peu. Pendant un mois, on a eu un mois de répit. Mon père ne savait pas où on était, mais mon oncle nous a retrouvés, le frère de mon papa. Et du coup, bien sûr, l'a dit à mon père. Deux semaines plus tard, on était à l'arrêt de bus avec mon petit frère. Et là, je vois un mec avancer devant moi qui était habillé comme mon père. Mais je me dis, impossible que ce soit mon père parce qu'il faisait la moitié de son poids. C'était mon père qui avait perdu 40 kilos. Là, j'ai été effrayée de le voir dans cet état. Il tremblait, il tenait pas debout. On aurait dit vraiment quelqu'un de très 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 malade. Il n'était pas là pour nous menacer, mais plus dans la culpabilité de « regardez-moi comment je suis, si vous revenez, je serai mieux », tout ça. Et donc de là, c'est fait le jugement où il a eu ses droits parentaux retirés. Et ensuite, les visites médiatisées ont commencé. Ma maman, pendant ces 8 mois, elle réapprenait à vivre. Ça allait plutôt bien, donc on s'est dit qu'on allait du coup partir du foyer. Et du coup, on s'est trouvé une jolie petite maison à côté du foyer, c'est-à-dire que c'était à 2 rues. C'était adorable comme tout. Et on y est resté pendant 1 mois seulement. Le 31 juillet 2018, ma maman avait fini du coup son stage, c'était son dernier jour. Elle nous avait dit d'aller chez une amie à elle pour qu'elle dîne avec nous. Dans l'après-midi, avec mon petit frère, on est allé chez une amie à elle qui s'appelle Martine. Et elle m'avait dit de prendre son maillot de bain parce qu'elle voulait nous rejoindre, se baigner et faire une grillade après. Sauf que les heures passent et ma mère ne vient pas. Au bout de 2 heures, je demande à Martine de nous conduire devant chez nous. Et au final, on a vu la porte de notre maison ouverte avec 2 ou 3 camions de police et puis des policiers qui faisaient des va-et-vient limite en courant. Donc là, on a senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Je me souviens, on était trempés et tout, on sortait de la piscine, je cherchais juste ma mère. Donc je suis allée voir une dame, une policière aussi. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe et tout, est-ce que je peux voir ma maman, machin. Et on venait d'acheter une nouvelle voiture qui était très vieille. Donc je me suis dit, elle a peut-être eu un accident, j'en sais rien. Et donc du coup, je suis en train de supplier à la policière de me rendre ma mère. Et ensuite, on a poireauté pendant au moins 1 heure devant chez nous, sans savoir ce qui se passait. On nous a dit, ouais, on conduira au poste, on vous expliquera tout là-bas. Donc là, ça sentait vraiment la catastrophe. On nous conduit au poste, on nous installe dans une petite salle bien froide pour nous expliquer qu'en fait, notre mère est décédée et puis notre père aussi. Et la seule chose qui m'est venue à l'esprit, c'était non, c'est pas possible. Donc j'ai commencé à crier non. Juste, je faisais un déni de la situation. Et mon frère à côté qui pleurait. Et ensuite, j'ai demandé d'aller aux toilettes parce que j'ai bugué devant le miroir pendant 10 minutes. Mon cerveau s'était éteint totalement. Tellement que quand on a repris la route avec les policiers pour aller chercher des affaires chez moi, je chantais dans la voiture, tellement mon cerveau ne comprenait plus rien à ce qui se passait. Donc vraiment, j'étais dans un choc inimaginable. Ensuite, on est rentré chez moi du coup pour récupérer des affaires, et c'est là où j'ai commencé à m'effondrer réellement. Absolument pas de famille autour de nous à ce moment-là. On avait, j'avais ma famille en Arménie, mais ils n'étaient pas avec nous. Donc c'était au téléphone. Il y avait la famille de mon père, mais qui était en France, avec qui je voulais pas avoir de contact. Donc j'étais absolument tout seul avec mon frère. Bon, pour moi, ma famille, c'était mon frère. Alors, donc on a été dans une famille d'accueil. Donc c'était un couple qui avait déjà une fille d'accueil aussi. Et on a été placés voilà, chez eux, sans contexte, on savait même pas qui c'était, pourquoi faire, machin. On nous a vraiment jetés là-bas. Et franchement, c'était pas une très bonne expérience. C'était juste des remarques assez souvent qui étaient très pesantes sur mon physique, sur la manière dont je vivais, en fait. C'était assez dur pour une enfant de 14 ans qui vient de perdre ses parents, de se prendre des remarques blessantes, en plus. J'ai pas assisté à l'enterrement de mon père, ni de ma mère. Celui de ma mère, c'est compréhensible parce qu'elle était enterrée en Arménie. Et celui de mon père, personne n'a demandé si j'avais besoin d'y aller. Moi, c'est par une cousine à moi que j'ai appris que mon père s'était fait enterrer, quoi. Mes parents, donc, du coup, sont décédés le 31 juillet 2018, grosso modo un mois avant la rentrée. À partir de septembre, j'ai fait un gros déni. C'est-à-dire que j'avais 17-18 de moyenne, j'étais félicitations, première de la classe, et tout allait très bien dans ma tête. Pour moi, il fallait juste que je travaille bien à l'école, et puis voilà quoi. Jusqu'au moment où, au bout de ces 1 an et demi, je me suis rendu compte qu'en fait, non, pas du tout. Mes amis, ils me voyaient comme une victime parce qu'ils savaient dans quel état j'étais. Mais en même temps, ils me trouvaient très forte, donc il y avait une certaine nuance étrange. C'était « tu vas y arriver, on croit en toi, parce qu'avec tout ce que tu as vécu et tout ce que tu surpasses là, moi je serais morte à ta place. » Ensuite, on est allé en Arménie pour se recueillir sur la tombe de ma mère. Il faut savoir qu'un mois avant tout ça, on avait essayé de parler à notre famille d'accueil pour leur dire que ça nous va pas du tout comment ça se passe, et puis on aimerait bien changer de famille d'accueil. Ils nous ont menacé en gros qu'on allait se faire séparer avec mon frère, qu'on allait finir en orphelinat, que ça allait mal finir pour nous si on les quittait. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'on a été largués en Arménie. La famille d'accueil est rentrée en France sans nous, quoi. Très bien, on était chez notre famille en Arménie, chez la famille de ma maman. C'est génial. Mais on attendait, quoi, de savoir qui allait faire quoi pour nous. Il nous fallait... notre France, quoi, parce qu'on a grandi là, nos études étaient là et tout, et c'est assez étrange d'avoir le cul entre deux pays. Et du coup, c'est à ce moment-là que Florie m'a dit, bon bah écoute, moi je m'occupe de tout, t'inquiète pas. Et c'est là où je me suis dit, purée, une famille, enfin, peut-être, parce qu'elle a 3 enfants. Donc il y a Maïli qui a 13 ans maintenant, Ruben qui a 9 ans maintenant, et Anna qui en a 6. D'ailleurs, ma maman s'appelait Anna, et elle a appelé sa petite dernière... pour ma maman, alors qu'elle était toujours vivante, juste parce qu'elle l'adorait. Et c'est là où je me suis dit, bon bah ok, on va enfin pouvoir souffler, quoi.
Je m'appelle Florie, j'ai 36 ans, j'ai 5 enfants, dont 2 que j'ai adoptés, les 2 grands. En 2011, je me suis présentée à la mission locale. Ils m'ont proposé ce poste en insertion parce que j'avais des difficultés d'anxiété et pour tout ce qui était entretien, c'était compliqué. C'est comme ça que je me suis retrouvée sur ce chantier d'insertion radio. On faisait des petits reportages radio, on choisissait nos sujets le lundi, après on travaillait dessus toute la semaine, on faisait nos interviews, nos montages, et puis après on passait à la radio. Et en fait, Anna était sur le chantier également. Ça a duré environ 1 an. On s'est rapprochés très très vite, tout simplement parce qu'on était très similaires toutes les deux. On s'entraidait toutes les deux, on se tirait vers le haut. En fait, moi-même, j'ai vécu dans un climat de violence toute mon enfance. J'ai aussi connu des violences conjugales. Et effectivement, Anna semblait être un petit peu dans ce cercle-là. Mais elle maintenait que ce n'était pas le cas. Il y avait cette attitude froide de Arthur. Il ne m'appréciait pas parce que j'étais un petit peu... celle qui voulait un peu la faire bouger, la faire sortir. Après, je ne parle pas de sortir en soirée, mais ne serait-ce que entre midi et 2, sortir boire un café. Et ça, c'était pas autorisé pour elle.
Très attachée à France Bleu Garloser. Et Anna, eh bien moi, j'avais envie de l'entendre tout simplement. Anna, vous allez entendre son petit accent. Anna arménienne. Anna qui faisait des reportages pour France Bleu Garloser.
J'essayais d'offrir des bonnes questions, faire un bon enregistrement. Après le monter, 1 ou 2 ans avant, je n'avais pas imaginé qu'un jour je vais passer à la radio. Je me rappelle le premier jour, j'avais le soir, quand je rentrais chez moi, j'avais le vertige, j'avais plein de choses dans ma tête.
Elle avait le vertige, Anna. Et Anna nous a quittés. Anna a été tuée par son mari.
Il y a eu un jour où on était dans une artothèque. Et Mireille, notre ancienne chef, a demandé à chacun de choisir son œuvre préférée et d'expliquer pourquoi. Anna a expliqué qu'elle avait choisi cette œuvre-là parce que pour elle, ça représentait s'échapper, la liberté. Du coup, on s'est vraiment posé beaucoup de questions à ce moment-là. Après ça, je suis partie un mois avant la fin du chantier pour passer mon bac que j'ai eu, et elle était super contente pour moi. Et l'idée, c'était ensuite de continuer, de faire une formation. Anna, elle, voulait aller vers la pâtisserie. Elle faisait des gâteaux magnifiques en plus. Ensuite, j'ai eu mon deuxième enfant. Elle est venue le voir. J'ai monté ma petite entreprise de bijoux. Elle venait me voir aussi. Ensuite, j'ai eu ma petite dernière, que j'ai appelée Anna, en référence à elle. Et quand je suis allée lui dire, je lui ai expliqué que tout simplement, pour moi, grâce à elle, ce prénom représentait la bonté et la douceur. Donc elle en a pleuré, c'était adorable. Et ma petite dernière s'appelle Anna, du coup. Et après, on essayait de s'épauler de l'une l'autre à distance, mais c'était pas forcément évident parce qu'elle pouvait pas beaucoup m'appeler. Enfin, c'était très rare et très court. Pour moi, en fait, quand je la voyais, elle allait bien. Et voilà, ça s'arrêtait là, quoi. J'ai pas cherché plus loin. En 2017, j'ai reçu un message sur le répondeur de la part d'Anna. Elle m'a laissé un message qui était très très long, où elle me disait, avec une voix plutôt même sereine, presque enjouée, qu'il fallait absolument qu'elle me parle, qu'elle avait des choses à me raconter, que c'était très important. Enfin, je me suis dit, bon, dès que j'ai le moment, je la rappelle. Sauf qu'entre-temps, mon numéro a été coupé, j'ai changé d'opérateur, le message s'est perdu. Et ça se joue à 2 jours, hein, à peine. Donc j'ai fait des pieds et des mains pour essayer de retrouver son contact. Et impossible de la retrouver. La suite de cette recherche, malheureusement, c'est quand j'ai appris que c'était trop tard. Je suis allée à l'hôpital pour une amie qui était en réanimation. Et là, je croise une ancienne collègue du chantier radio. Elle vient me voir et puis là, elle me dit « Alors, pour Anna, comment tu te sens ?» Et j'étais comme une folle à lui demander « Tu peux me dire comment elle va? Tu peux me donner son numéro? Elle est où? Comment ça se passe ?» Je partais dans tous les sens. Et du coup, elle s'est décomposée et elle était désolée d'être celle qui m'annonce ce qui était arrivé, quoi. Je me suis effondrée et donc là, son rôle, ça a été pendant une bonne demi-heure de me calmer et d'essayer de m'apaiser. Après ça, j'ai eu ce déclic de me dire de suite, les enfants, comment ils vont? Est-ce qu'ils sont entourés, soutenus? Est-ce qu'ils ont leur nationalité française? Et bien sûr, je me suis dit, s'ils ne sont pas bien où ils sont, je les prends chez moi avec moi, ça c'était obligé. On avait déjà eu une conversation avec Anna à ce sujet-là. Elle m'avait dit que si jamais il lui arrivait quelque chose un jour, elle aimerait que ce soit quelqu'un comme moi qui puisse s'occuper de ses enfants. Et ensuite, elle a carrément dit « Non, j'aimerais que ce soit toi, en fait. » Donc, je me suis démenée comme une folle pour essayer d'avoir de leurs nouvelles à eux. Et ça a été ça aussi très compliqué, parce que l'aide sociale ne voulait pas me donner de nouvelles parce que je ne suis pas un membre de la famille, tout simplement, et qu'ils étaient protégés. À ce moment-là, j'ai pris une avocate pour essayer de m'aider dans ces démarches, pour avoir le droit à ne serait-ce que savoir où ils sont et comment ils vont, en fait. Alors, l'avocate, elle part pas très optimiste. Elle m'a dit qu'on allait essayer, avec les témoignages qu'on avait, de prouver le lien qu'on avait toutes les deux et le lien que j'avais avec les enfants. Elle m'a dit, on va taper à toutes les portes en même temps et on verra la première qui s'ouvre. Et je fouillais sur Internet en tapant tous les noms que je pouvais trouver. Et puis un soir, avec une amie, elle a fini par trouver le compte Snapchat de Milena. Donc je la contacte et Milena me répond. Elle se demande, mais qui est cette folle qui me pose autant de questions? C'était un moment complètement fou pour moi, en fait, de savoir enfin comment ils allaient. Et il a fallu le temps de lui prouver qui j'étais, parce que Milena, mine de rien, la dernière fois qu'elle m'avait vue, elle se rappelle de moi, mais elle était quand même petitoune. Donc à ce moment-là, elle et Lucas sont dans une famille d'accueil, et elle me maintient qu'ils sont bien entourés, qu'elle a ses amis, enfin voilà, que ça roule, quoi. Et après, ils vont en Arménie pour aller sur la tombe de leur maman avec cette famille-là. Cette famille finit par s'en aller, repartir en France sans eux. Pour moi, je trouve ça déjà horrible. À partir de ce moment-là, Milena s'est enfin lâchée et m'a enfin dit tout ce qui se passait dans cette famille d'accueil. Et là, j'étais complètement retournée de me dire, mon Dieu, mais tu as refait la même chose. Tu as encore cru quand elle t'a dit que tout allait bien. Et en fait, elle faisait comme sa maman. Milena et Lucas, pour moi-là, n'ont pas la nationalité française, mais ils ont la protection de l'OFPRA. Donc, ils sont protégés par l'État. Et l'ASE aurait dû trouver une solution pour les faire revenir. On a attendu, moi j'ai essayé de mon côté quand même aussi. Puis au bout d'un moment, c'était trop long. Lucas, ça allait à peu près. Mais Milena, par contre, elle était au bord du suicide, en fait, carrément. Et moi, c'était insupportable pour moi de la voir tous les jours, parce que je la voyais en visio tout le temps. Aussi mal, c'était pas possible. L'ASE a peut-être pensé que, étant dans leur famille maternelle, alors c'était bon, il n'y avait plus rien à faire. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé de ce côté-là. Ils auraient pu être bien là-bas, c'est vrai, mais c'est pas ce que leur maman avait choisi, c'est pas ce qu'ils avaient connu depuis tout petit. Après, il faut dire qu'au départ, ils se sentaient quand même très très bien parce qu'ils se sont quand même retrouvés avec des personnes qui ressentaient la même chose qu'eux. Donc ça, ça leur a fait du bien. Par contre, ils ne pensaient pas y rester éternellement. Et quand ils se retrouvent là-bas, c'est la période Covid. Il y a les cours en distanciel, mais c'est pas, voilà, ils ne sont pas scolarisés. Donc ils sont constamment dans cette même maison où ils sont très nombreux. Et puis la guerre est arrivée à ce moment-là aussi. Ils se trouvaient à Erevan pendant que l'Arménie était en guerre avec l'Azerbaïdjan. C'était une période qui était très anxiogène, quoi. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que j'ai dû me battre tous les jours entre aller à l'ASE, aller à la préfecture, pour trouver des solutions pour les faire revenir, parce que je ne pouvais pas laisser une enfant de 15 ans menacer chaque jour. Enfin, vraiment, chaque jour, j'avais peur qu'elle finisse par passer à l'acte. C'était une horreur. Et au final, il a fallu qu'un jour, l'avocat de l'ASE, il a dit à mon avocate, « Oh, écoutez, si vraiment madame arrive à les faire revenir en France, eh bien qu'elle le fasse. » Mon avocate m'a appelée de suite après, donc c'était vendredi. Elle m'a dit, « C'est bon, vous pouvez les faire revenir. » Il m'a dit ça. Je suis assermentée, il me l'a dit à moi, « Vous pouvez le faire. » J'ai pris des billets pour le lundi. Ils ont eu le temps de s'organiser pendant le week-end, de dire au revoir à leur famille. Et je suis allée les récupérer à Paris, à l'aéroport de Paris. Et à partir de ce soir-là, ils étaient chez eux. Une semaine environ après leur arrivée, j'ai un appel de l'aide sociale à l'enfance qui me dit « Mais vous n'avez aucun titre pour les avoir. Vous n'êtes rien. » Donc on a fait valoir que j'étais suffisamment proche d'eux et de Anna pour pouvoir les accueillir. Après quelques démarches et quelques temps, j'ai enfin le titre de tiers digne de confiance. À ce moment-là, moi je suis maman de 3 enfants, maman célibataire. J'ai une petite maison. Mes enfants à ce moment-là savent juste que Lucas et Milena n'ont plus de parents et que donc c'est maman qui va être leur maman. Après, une fois que Lucas et Milena sont arrivés à la maison, en grandissant, ils ont posé des questions. Et on leur répond petit à petit, en douceur, chacun à leur niveau et à leur vitesse, quoi. Quand Lucas et Milena étaient dans leur famille d'accueil, ils agissaient comme des machines, en fait. Ils faisaient tout ce qu'ils avaient à faire, comme des adolescents de leur âge, mais ça s'arrêtait là. Et à partir du moment où ils se sont retrouvés ici, ils se sont sentis assez en sécurité pour se relâcher. Là, ils ont fait leur deuil. Donc ils ont commencé à faire leur deuil fin 2020, début 2021. À ce moment-là, c'est déjà c'est extrêmement dur parce qu'ils passent par des étapes extrêmes, mais vraiment extrêmes, qui peuvent aller jusqu'à la tentative de suicide. On a développé un très gros suivi pour les deux, hein, psychologique et psychiatrique. Tous les deux se sont retrouvés à un moment donné, même plusieurs fois, internés en psychiatrie. Moi, je suis juste là pour les tenir. Lucas et Milena ont des comportements d'ado. Donc des fois, il y a des prises de bec, des fois, il y a des petites punitions, comme une famille normale. Ils me traitent aussi comme une maman, dans le sens où ils m'apportent beaucoup d'amour, de compassion. Et d'un autre côté, où parfois, ils sont un peu durs, un peu raides, comme des ados, quoi. Il y a aussi le lien qu'ils ont entre eux avec les petits. Par exemple, Lucas avec Anna, ils ont été très proches dès le début. Miley avec Milena aussi. Elles grandissent toutes les deux, on dirait les mêmes. Et c'est très marrant parce qu'on dirait de vrais frères et sœurs en fait. Donc à ce stade, je suis tiers digne de confiance, mais le but est de les adopter pour qu'ils se sentent vraiment dans leur famille, quoi. Il se trouvait que c'était plus simple d'attendre leur majorité. Donc on patiente, on fait les dossiers en attendant et le jour où c'est faisable, eh bien, on le fera, s'ils le souhaitent. On a eu la chance d'avoir l'aide d'une association qui s'appelle l'UNFF, l'Union Nationale des Familles de Féminicides. Je crois que sans eux, peut-être qu'on ne s'en serait pas aussi bien sortis. Et aujourd'hui encore, ils sont derrière nous. Et des fois, c'est même juste une aide, une écoute. Parce que je me sens pas à la hauteur, je les appelle et là, elles me rappellent toutes les choses que j'ai faites. Je me sens jamais à la hauteur, moi. Moi, ce qui me fait tenir, c'est eux. Enfin, les cinq, en fait. J'étais obligée de tenir pour eux et quelque part, en fait, je leur dois d'avoir réussi à avancer malgré tout ça.
C'était D'autres mères que la mienne avec Florie et Milena. Reportage de Judith Chétrit, réalisé par Eric Lancien. Merci à L2, Milena et Florie, ainsi qu'à France Bleu, Gare, Lozère. L'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Sandrine Chaperon. Et notre stagiaire, c'est Hortense Martin.